L'actualité des Alpes du Sud avec cette question ce matin. A-t-on surmédiatisé l'affaire du petit Émile ?
Ses obsèques se sont tenues samedi, plus d'un an et demi après sa disparition, le 8 juillet 2023 au hameau du Haut-Vernay. Un événement qui avait ému la France entière. La célébration religieuse en sa mémoire dans le Var était retransmise en direct sur certaines chaînes d'information en continu.
80 personnes mobilisées hier devant le commissariat de gendarmerie de Sisteron.
Elles répondaient à l'appel du collectif féministe de Sisteron. Une colleuse issue de ce groupe a fait l'objet d'une plainte de la part du maire de la ville, Daniel Spagnou, après un collage à la fin du mois dernier.
Allons-nous vers une évolution du service de soins d'urgence dans le département basalpin ?
L'ancien ministre de la Santé, François Braun, a été missionné il y a quelques mois pour proposer des solutions. Les premières conclusions ont été présentées aux élus.
Le président du COJO pour les Jeux Olympiques 2030, désigné avant le 18 février prochain.
5 jours après le retrait fracassant du candidat Martin Fourcade, les acteurs des prochains JO souhaitent trouver le candidat idéal pour présider le comité d'organisation de l'épreuve olympique prévue dans 5 ans.
Une course de l'extrême sur laquelle est engagé un Ubaïen.
Guillaume Grimat, de son prénom, le français, est juste derrière un autre, Mathieu Blanchard, sur une course polaire. Elle s'appelle la Yukon Arctic Ultra au Canada. L'Ubaïen est deuxième à moins de 100 km de l'arrivée sur les 650 que compte la course.
Les obsèques du petit Émile Soleil se tenaient donc samedi.
Sa disparition le 8 juillet 2023 au hameau du Haut-Vernay avait ému la France entière. Ses ossements avaient été découverts 8 mois plus tard, le 30 mars 2024, par une randonneuse. Si aujourd'hui l'enquête se poursuit et si la lumière sur les circonstances de sa disparition et de son décès n'a pas été faite, le petit garçon a été inhumé en toute intimité samedi après-midi à la Bouilladis dans les Bouches-du-Rhône. Avant cela, une messe d'obsèques avait eu lieu au sein de la basilique Sainte-Marie-Madeleine à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume dans le Var. Un événement suivi par de nombreux médias, mais aussi retransmis toute la matinée par les chaînes d'information en continu, Aurore Valory.
Des caméras, des appareils photos, des micros, nombreux sont les médias locaux et nationaux qui ont fait le déplacement tôt ce samedi pour suivre durant la matinée les obsèques du petit Émile. Si certains viennent prendre l'ambiance pour des reportages ou des papiers en presse écrite, les chaînes d'information en continu sont en live. Une partie du parvis devant la basilique est à disposition de la presse. Les parents du petit garçon de 2 ans et demi avaient en effet demandé, par le biais de leur avocat Jérôme Triomphe, de ne pas filmer ni photographier à l'intérieur de la basilique pour, je cite, « préserver l'intimité de la famille ». Seuls les invités et le public peuvent assister à la messe. Discret, une centaine de gendarmes et de policiers s'assurent du bon déroulé. Sous la pluie fine qui tombe sans discontinuer, Alain, photo-reporter pour Nice Matin, Var Matin, doit faire toute une série de clichés qu'il enverra ensuite au journal.
Là, on est bien parqué avec toute la presse. Il y a tellement de presse qu'on nous... Et surtout de presse télé. Il y a deux ou trois fois plus de caméras que de photographes. On est obligé de faire avec la sécurité qui nous oblige à rester à l'extérieur. On va essayer de faire au mieux. On essaye d'avoir un peu la famille ou quand ils vont sortir le petit cercueil, voir un peu le recueillement.
Alizée est aussi photographe. Elle travaille aujourd'hui pour le journal des Alpilles. Elle a eu des consignes claires de la part de sa rédaction. D'action.
Surtout éviter de faire quelque chose qui rentre trop dans l'intimité, qui est trop proche en fait du cercle familial, donc éviter les photos qui sont vraiment où on va tout de suite capter de quoi il en ressort. Donc c'était plutôt prendre l'ambiance générale, voir qu'il y avait le comportement des gens aussi, si c'était très émouvant, si les gens voulaient s'approcher, rentrer, voilà.
Lui a suivi ce dossier Émile depuis sa disparition en juillet 2023. Marc Leras est correspondant à Marseille pour Le Parisien aujourd'hui en France. Il s'est rendu au Vernay dès le lendemain du drame. Il voit dans ce dossier une affaire qui parle à tout le monde.
Je pense que c'est une affaire emblématique aujourd'hui parce qu'on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Mais surtout, c'est une affaire qui parle à tous les parents. En début d'été, les grands-parents qui surveillent un petit garçon, il disparaît. Pendant très longtemps, on ne sait pas ce qui se passe. C'est un peu une angoisse parentale générale, cette histoire. La consigne, c'était vraiment de raconter ce qui se passait. Et ce qui se passait, ce qui était le plus évident dans ce qui se passait, c'était vraiment cet élan de solidarité. Puis là, aujourd'hui, c'est les obsèques d'un enfant. C'est quelque chose qui est extrêmement délicat. On va traiter ça avec le plus de décence et de respect possible. Après, on voit au vu de la, mobilisation policière, etc., que c'est quand même un événement. Et puis les parents ont communiqué, donc ils souhaitaient qu'on soit là d'une certaine façon, donc on est là.
Et notez toutefois que dans le cadre de ce reportage, plusieurs confrères n'ont pas souhaité répondre à nos questions.
Merci Aurore, et ce n'est pas le glas qui a retenti à la fin de la messe, mais un carillon pour célébrer l'espérance chrétienne et la foi en la résurrection. Le clergé portait également des couleurs claires, car contrairement aux messes pour adultes, la couleur liturgique est le blanc, symbole de la pureté.
80 personnes mobilisées hier devant le commissariat de gendarmerie de Sisteron pour soutenir une colleuse féministe.
Daniel Spagnou, le maire de la ville, a porté plainte contre cette dernière pour dégradation volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger et apposition d'affiches particulières en lieu réservé à l'affichage d'actes d'autorité publique. Choqué, le collectif féministe de Sisteron rappelle que le collage réalisé est éphémère, part avec de l'eau et quand cela il ne constitue en rien une dégradation. Le collectif féministe estime que la réponse de l'édile de Sisteron est disproportionnée et qu'elle montre le peu d'intérêt que la mairie porte au combat de l'association. Enfin, les féministes revendiquent un acte collectif et non un acte isolé de la part de la camarade visée par la plainte, à qui tout le soutien est apporté.
Un homme victime d'un accident d'escalade à l'Argentière-la-Bessée.
Alors qu'il évoluait sur une cascade de glace, l'alpiniste a dévissé sur 10 mètres pour une raison encore inconnue vers 13h hier. Victime d'un traumatisme crânien et de blessures aux membres supérieurs, il a été évacué par l'hélicoptère sur l'hôpital de Briançon par les secouristes du PGHM de la cité Vauban. Et puis aux alentours de midi hier, le PGHM de Josier est intervenu, lui, sur le domaine skiable de Chabanon pour secourir un homme d'une trentaine d'années après une chute. Blessé au genou, le skieur a été pris en charge et évacué par le Choucas 04 sur l'hôpital de Digne-les-Bains.
Allons-nous vers une évolution du service de soins d'urgence dans le département basalpin?
Entre les urgences de Manosque, qui sont fermées en nocturne une fois encore jusqu'au 17 février la nuit, les urgences de Sisteron qui connaissent des nuits sans smur et les urgences de Digne qui régulent aussi quelques nuits par an l'accès, la situation est plus que compliquée pour se faire soigner sur le territoire basalpin. Pour y remédier, l'ancien ministre de la Santé François Braun a été missionné pour proposer des solutions en partenariat avec les acteurs des services de santé et les élus. Les premières conclusions ont été présentées, Cyril Kavamichard.
Il faut déjà rassurer la population sur un point. Les services d'urgence vitale vont continuer à fonctionner 24 heures sur 24 dans les trois hôpitaux du département, Sisteron, Digne-les-Bains et Manosque. Gilles Dufour est le président du GHT, le groupement hospitalier de territoire.
Les urgences vitales sont assurées dans notre département et que ce soit au centre hospitalier de Digne ou au centre hospitalier de Manosque, puisque le SMUR, service mobile d'urgence, fonctionne 24 heures sur 24 tout au long de l'année. Donc les urgences vitales sont bien prises en compte sur notre département.
Rien de nouveau donc pour les urgences vitales. Pour les praticiens, au niveau de l'organisation des urgences, des dispositions seront prises pour simplifier l'ensemble des logiciels informatiques et pour ramener les médecins près des patients en simplifiant l'administratif. C'est ce que relate Francis Kuhn, le président du conseil de surveillance du centre hospitalier de Digne-les-Bains, qui annonce aussi du changement dans les accueils aux urgences de Digne et Manosque.
Sur les urgences elles-mêmes, François Braun a considéré qu'il fallait absolument préserver la capacité des urgences de Digne à fonctionner H24, 7 jours sur 7. C'est le cas actuellement. Concernant Manosque, il y a du mieux, puisque les urgences de Manosque, à partir de début mars, vont être ouvertes jusqu'à 22h30, tous les soirs. Entre 20h30 et 22h30, ce sera plutôt de la régulation, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas venir librement, mais jusqu'à 20h30, on pourra venir librement.
Un élargissement des horaires à venir donc, avec en plus du renfort, le CHU de Marseille va partager un poste avec Manosque et Sisteron. Son maire, Daniel Spagnou, est plutôt satisfait des premières recommandations. Son hôpital et ses urgences qui dépendent du Chicas de Gap sont toutefois concernés par les recommandations, car la régulation nocturne amène les patients soit aux urgences, soit auprès d'un médecin le lendemain, soit dans une maison médicale de garde. Manosque en a déjà une, Digne en projette une autre, mais pas Sisteron. Le maire Daniel Spagnou y est même opposé.
Ce genre de maison, il y en a une d'ailleurs à Foncalquier, et j'ai vu que le maire de Digne va en faire une. Il faut encore avoir l'accord des médecins généralistes, et ça c'est pas gagné d'avance, mais ça va affaiblir encore un peu plus nos hôpitaux de proximité, et ça veut dire que très vite, d'ici un an ou deux, ils nous fermeront les urgences carrément la nuit. Donc il faut se méfier, moi je ne suis pas favorable.
Enfin, parmi les mesures, le ministre confirme l'abandon de la fusion des SAMU 04 et 05. Un temps évoqué, le projet est donc définitivement écartée.
L'ancien ministre François Braun invite toutefois les deux SAMU des Alpes du Sud à plus de transparence dans les procédures et à avoir une feuille de route commune publiée début avril avant une mise en route prévue fin juin 2025.
Le président du COJO pour les Jeux Olympiques 2030 désigné avant le 18 février prochain.
Cinq jours après le retrait fracassant du candidat Martin Fourcade, les représentants du ministère des Sports et des deux régions concernées ainsi que des comités olympiques et paralympiques se sont retrouvés samedi pour tenter d'aller de l'avant et sortir de cet échange une volonté de trouver le candidat idéal pour présider le comité d'organisation en amont de l'assemblée constitutive du 18 février. L'ensemble des participants salue le nombre et la qualité des manifestations d'intérêt pour assumer cette fonction.
L'association Manosque Terre d'Avenir dénonce dans un communiqué samedi l'attitude de l'opposition municipale.
Cela fait écho au vote sur la baisse de la taxe foncière bâtie intercommunale. Selon l'association qui soutient le maire de Manosque, Camille Galtier, l'opposition, en choisissant de s'abstenir, s'est opposée à une mesure visant à réduire la pression fiscale sur les habitants. Il est également souligné que ce vote fait suite aux décisions prises par l'opposition quelques années auparavant, notamment sur son soutien à la hausse de la taxe foncière. Se présentant comme une force de proposition, Manosque Terre d'Avenir affirme vouloir défendre une politique plus solidaire et responsable pour la ville et ses habitants.
Les papillons en danger en Provence-Alpes-Côte d'Azur.
10 ans après la première liste rouge régionale des papillons de jour, la réévaluation de 2024 révèle une aggravation alarmante. C'est ce qu'affirme le Conservatoire d'espaces naturels de la région. 51 espèces ont vu leur situation se détériorer et 24 sont désormais menacées de disparition. Les causes de cette situation alarmante, l'urbanisation, l'agriculture intensive et le changement climatique. Le Conservatoire d'espaces naturels agit pour la préservation de la biodiversité en menant des actions de gestion, de protection, de sensibilisation et d'accompagnement des politiques publiques dans la région.
L'aide au chauffage renouvelée cette année à Digne-les-Bains pour les retraités aux revenus modestes.
Face aux difficultés économiques et à la hausse des coûts de l'énergie, la ville a annoncé le prolongement de ce dispositif. Mis en place par le CCAS de la commune, ce dispositif permet d'obtenir un bon de 160 euros pour alléger les factures de chauffage. Pour en bénéficier, les demandeurs doivent être domiciliés à Digne, bien évidemment, et disposer de revenus annuels inférieurs à 12 145 euros pour une personne seule et 18 854 euros pour un couple ou un foyer. Les dossiers doivent être déposés avant le 15 mai prochain auprès du CCAS. Les pièces à communiquer sont à retrouver dans notre article sur alpe1.com.
Et puis on termine ce journal par une course de l'extrême sur laquelle est engagé un Ubaïen.
Il s'appelle Guillaume Grima, le français, et juste derrière un autre, Mathieu Blanchard, sur une course polaire. Son nom, la Yukon Arctic Ultra, c'est au Canada. Hier soir, sur la distance de 650 km, Mathieu Blanchard a franchi le dernier ravitaillement situé à 71 km de l'arrivée. L'Ubaïen et ultra-trailer Guillaume Grima était lui 22 km derrière Blanchard.
L'actu des Alpes du Sud continue sur alpe1.com.